Merci, c'est gentil. J'étais à Alma, à l'église baptiste d'Alma. On est dans la série de David, un cœur qui bat pour Dieu, et on est en train d'apprendre par cœur le psaume 23, pas 123, mais le psaume 23, le psaume du bon berger. Hein? On y va? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merveilleux. Excellent. Alors, ce matin, c'est déjà le 13e message dans la série de David, un cœur qui bat pour Dieu. Je vais l'ouvrir. Et voilà. OK. Hier soir, avant de me coucher, je demandais au Seigneur de me donner une illustration ou quelque chose pour introduire le message. Puis ce matin, dans les petites heures du matin, j'ai eu un drôle de rêve. J'ai rêvé qu'on m'avait invité à quelque part pour comme conférencier, pour prêcher là. Puis c'était une jeune église très dynamique, beaucoup de jeunes. Puis ils faisaient la présentation d'une pièce musicale en avant. Puis là, j'étais tout émerveillé. Waouh, c'est dynamique, c'est le fun. Les jeunes s'impliquent. Sauf que ça durait, ça durait, ça durait, ça durait. Puis, je me rendais compte que finalement, il n'y avait comme pas de but à cette pièce-là. Il n'y avait pas de morale à l'histoire. Puis que finalement, les jeunes, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était démontrer leur capacité à être des bons comédiens ou à chanter ou peu importe, mettre en valeur leur capacité, leurs habiletés. Et je trouvais ça désolant. Puis là, rendu à 11h30, j'ai regardé Lorraine, j'ai dit, pour moi, j'aurais pas le temps de prêcher, là. J'ai dit, je vais tellement être obligé de couper que ça. Fait que là, je me réveille, je dis, Seigneur, c'est quoi le rapport? Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ben, les jeunes, c'est vous. C'est vous, les êtres humains. Vous vivez vos vies comme si vous étiez en train de jouer dans un spectacle de votre propre création. Et puis, votre but, c'est de vous amuser. Il n'y a ni queue ni tête à ça. Vous vous mettez en avant. Vous voulez juste être reconnu. Et puis, moi, je suis assis, puis j'attends. Puis, vous m'accordez peut-être 5 ou 10 minutes dans votre journée. Ouf! Wow! Et moi, j'étais assis là, puis dans mon rêve, je me sentais mis de côté, là, vraiment, là. Je me sentais ignoré, pas important. Et le Seigneur me dit, c'est ce que vous faites. Ces jeunes-là représentent vous, les êtres humains. Comme on a vu il y a 2 semaines, on aime bien jouer dans notre propre film. On veut être les scénaristes, les producteurs, les metteurs en scène, l'acteur principal de notre film à nous, chacun de nous. C'est comme si on irait sur un gros studio à Hollywood, puis on commencerait à créer notre propre plateau de tournage, là. Il n'y a personne qui nous autorise à faire ça, mais nous, on veut faire ça. Puis là, on se forge parce que les autorités ne nous donnent pas ce qu'il faut. Il n'y a personne qui a dit, c'est là qu'il faut tourner. Dieu, il dit, t'es sur le mauvais plateau, mon homme. Tu veux jouer dans ton propre film, puis tu me mets de côté. Et tu n'arrêtes pas pour me donner 5 minutes, pas plus que 5 minutes des fois. Ce matin, Dieu a un film à nous montrer que lui a tourné dans la vie de David. Et puis, la phrase sommaire est celle-ci. Un cœur qui bat pour Dieu se laisse reprendre avec humilité. Pardon. Ah, je pense que je n'ai pas ouvert le bon. Excusez-moi. Je vais aller voir. Ah, j'ai pas trouvé le bon. C'est bizarre, ça. Ah, OK. Voilà le bon. J'ai vu qu'il manquait les masques pour... Oui, Dieu a tourné un film dans la vie de David. Et puis, qui n'aime pas un bon film? Dans un bon film, on a souvent la mise en scène. On voit les... Tu sais, souvent c'est une scène bucolique, tout est tranquille, ça va bien. Et puis tout à coup, il arrive une crise. Et puis un bon film, ça nous accroche parce que il y a une situation de crise. Et après ça, on voit comment les protagonistes, comment les acteurs, les personnages principaux vont agir, vont réagir à ça. Et puis à la fin, il y a un dénouement. Bien, ça suit ça, là. Vraiment, c'est digne d'un film ce matin, ce qu'on va voir. Fait que je vous demande de tourner dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. On est rendu là dans l'histoire de David. Verset 1. Samuel le prophète, mourut. Tout Israël s'étant rassemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon, c'est un petit village pas loin, là, un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte des brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait des fils de Caleb. Pardon. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. » Pour la vie, en hébreu, c'est la haïm, c'est une expression de, de salutation, la haïm, la vie. « Sois en paix, shalom, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. » Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et te diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui ne sont de je ne sais où. » Les gens de David rebroussèrent chemin, s'en allèrent, retournèrent dire à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Ils les saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en restait 200 près des bagages. Prions. Seigneur notre Dieu, quel privilège nous avons ce matin de se rassembler en ta présence. Roi de l'univers. Dieu éternel, souverain créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y meut. Seigneur notre Dieu, On te demande de nous donner un esprit de sagesse et de discernement pour comprendre ta parole, pour saisir ce que tu veux nous dire ce matin. Oui, Seigneur, éclaire notre intelligence, illumine les yeux de notre cœur. On veut être à ton écoute ce matin, Seigneur. On chasse en ton nom toute autre voix et on te prie d'être une muraille de feu autour de nous pour empêcher toute distraction. Tu as toute notre attention, Seigneur. On veut entendre ta voix et que ta parole porte fruit dans nos vies, Seigneur. Pour la gloire de Jésus. Amen. J'ai intitulé ça « Un fou, un furieux et une sage ». Donc, la mise en scène, voici qu'il y a un homme riche, Nabal, qui a de très grands troupeaux, des brebis, des chèvres, 3000 brebis, 1000 chèvres. J'ai calculé que ça, dans nos dollars à nous, ça arriverait peut-être à environ 1,5, 2 millions de dollars, à part toutes ces autres richesses-là. De plus, s'il y a une femme qui est belle et intelligente, il y a tout ce qu'il faut dans la vie, mais lui, il a mauvais caractère. Puis là, on arrive à la saison des tontes des brebis. Ça se peut que ça soit au printemps. Lorsque l'hiver est passé, les brebis ont plus besoin de leur manteau. On tond les brebis et puis on va vendre ça sur le marché. On va faire beaucoup, beaucoup d'argent avec la laine. Donc, c'est une période de retrouvailles, tous les bergers, en ayant 3000 brebis, et c'est pas juste un troupeau, là. Il y avait plusieurs bergers qui prenaient soin. Donc, c'est une période de retrouvailles, tous les bergers se rassemblent, c'est des réjouissances, c'est les festivités, parce que la laine va être vendue, la récolte va être bonne, puis on va être payé, puis on festoie. Donc, on apprend que David, lui, avec ses hommes, ils sont toujours en fuite, hein? Ils sont toujours en fuite de Saül. Il faut qu'ils se cachent. C'est des rescapés, ce sont des hommes recherchés. Mais on apprend que David et ses hommes avaient pris soin des bergers de Nabal lorsqu'ils étaient dans leur région. Ils les avaient protégés jour et nuit, comme une muraille autour d'eux. Parce que à l'époque, il faut comprendre qu'il y avait des bandes criminelles qui faisaient des razzias, qui allaient voler, puis ça arrive encore dans certains pays du Sahel, ces places-là. La vie est tellement dure qu'il y a des bandes criminelles qui vont voler des choses, des chameaux, des brebis, et puis même au prix de tuer les gens. Donc David et ses hommes avait protégé ses bergers de Nabal, probablement pendant un bon bout de temps, là, plusieurs semaines, peut-être des mois. David envoie quelques hommes pour voir si Nabal ne pourrait pas les aider en fournissant un peu de nourriture pour lui et ses hommes. Nabal non seulement refuse catégoriquement, il reconnaît aucunement le bien que David et ses hommes lui ont fait, mais il en rajoute en insultant David. Qui est David? Et en le traitant d'un simple serviteur, alors qu'il est loin de l'Éternel. Alors, on a Nabal qui agit en fou. Dans la Bible, hein, comme j'ai dit d'autres fois, fou dans la Bible veut dire qu'on agit sans tenir compte de Dieu. Insensé. Tu agis sans tenir compte de Dieu. C'est Dieu qui a besoin de David. Nabal, il ne reconnaît pas ça. Nabal, il ne reconnaît pas le bien que Dieu lui a fait en envoyant David et ses hommes protéger ses troupeaux, puis que lui, maintenant, il récolte le bien de tout ça. Maintenant, comment va réagir notre protagoniste David? Et je l'ai intitulé « Le furieux ». Que fait David? Comment à ses hommes de prendre leurs armes, de le suivre? Il a l'intention de faire quoi? D'anéantir Nabal et toute sa famille. Ouf! C'est fort! À quoi David réagit-il? On comprend que la réaction de David démontre une colère, hein? Une colère, c'est quoi la colère? C'est une réponse à quoi? Un sentiment d'injustice réel ou perçu? Perçu. Oui, voilà. Donc, David est en colère. Puis, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dit, ben voyons donc, c'est démesuré, là. Hein? Mais c'est facile à dire pour nous parce qu'on n'est pas dans les bottines à David. J'essayais de trouver un équivalent aujourd'hui. Bof, je vous dirai ce que j'ai trouvé, là, mais je ne sais pas si ça va faire votre affaire. Si ça ne fait pas votre affaire, vous me le direz après. Mais j'ai dit, supposons que tu es en voyage de pêche. Il y en a qui aiment la pêche ici. Supposons, OK, c'est bon ça. On devrait faire un voyage ensemble, un voyage de groupe. Tu es en voyage de pêche. Et là, tu rencontres des jeunes. C'est les jeunes de ton. Ça se trouve être les enfants de ton voisin qui sont sur le même lac que toi. Mais là, ils sont mal pris, ces jeunes-là. C'est des ados. Leur embarcation coule. Ils n'ont pas pris de poisson. Et ils n'ont pas apporté assez de nourriture. Puis un ours a déchiré leur tente. Puis leur voiture ne part pas en même temps. Ça va mal. Ça va mal. Et là, tu pourvois pour eux. Tu leur donnes la nourriture. Tu leur prêtes une de tes tentes. Tu répares leur embarcation. Tu passes une journée à réparer l'embarcation alors que tu aurais pu être à la pêche. Tu boostes leur auto. Bref, tu veilles sur eux comme un papa. De retour chez toi, une semaine plus tard, tu as besoin d'un petit coup de main de ton voisin pour t'aider à transporter quelque chose et il t'envoie promener. Je n'ai pas de temps à t'accorder. Je suis en train de fêter avec mes amis, voyons. Penses-tu que je vais sortir de la fête parce que tu n'es pas capable de t'occuper de tes affaires? Ouf! Je ne sais pas, ça marche-tu mon affaire? Plus ou moins, ouais, ça marche. Ben, OK. OK. Fait que la réaction, ça serait quoi, là? C'est une colère. Il y a l'injustice. J'ai aidé, j'ai pris soin, puis lui, il ne veut pas sortir de sa fête, puis en plus, il me traite d'un incapable. Bon, en tout cas, David est en colère. Oui, il sort son 12. Mais la question à se poser quand on est en colère, frères et sœurs, c'est, premièrement, est-ce que c'est une injustice réelle ou c'est ma perception des événements? Deuxième question, quel royaume est menacé? Quel royaume est menacé? Mon royaume ou le royaume de Dieu? OK? Ça, c'est une bonne question à se poser. David, dans la circonstance, est-ce que c'était le royaume de Dieu qui était menacé? Non, c'était son petit royaume à lui. C'était son moi à lui. Le royaume, est-ce qu'une action particulière est requise parce que le royaume de Dieu est menacé? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Puis en plus, David consulte-t-il l'Éternel? On voit que dans les dernières semaines, David, à chaque fois, il consulte l'Éternel. Est-ce que je devrais aller à guerre contre les Philistins? Pourtant, c'est encore plus évident, là. C'est un ennemi qui attaque Israël. Hein? Mais là, est-ce qu'il consulte l'Éternel pour savoir s'il devrait aller zigouiller Nabal? Non. Il ne consulte pas l'Éternel. Ça nous saute aux yeux dans la situation de David, mais lorsqu'il s'agit de nos propres vies, on a tendance à être aveugle. On est aveugle, ne voyant pas nos propres enjeux. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur me ramène beaucoup dernièrement. J'ai écouté un podcast dernièrement, je ne sais pas si je vous l'avais dit, là. C'est Paul Tripp, un pasteur aux États-Unis. Il dit que nous, les êtres humains, nous sommes aveugles. Spirituellement. La Bible nous dit ça. Nous dit que nous sommes aveugles. Et il dit, les aveugles physiques, là, ceux qui sont un aveuglement physique, là, ils savent qu'ils sont aveugles. Mais un aveugle spirituel, il ne sait pas qu'il est aveugle. Wow! on est aveugle à notre propre aveuglement. Frères et sœurs, là, ça devrait nous faire réfléchir, ça devrait nous faire, ça devrait nous saisir, là, pour dire qu'avant de poser une action ou de réagir à quelque chose, là, ça serait bon de réfléchir. Parce qu'on est aveugle, mais on est en plus aveugle à notre aveuglement. On ne voit pas ce qui se passe dans notre cœur, on ne voit pas qu'est-ce qui est attaqué, là. C'est facile quand c'est quelqu'un d'autre. Ah, mon frère, regarde, mon frère, il réagit à ça. Ah! Ouais, mais quand c'est toi, tu ne le vois pas. Ça nous saute aux yeux dans la vie de David. David, voyons. Mais lorsque tu vis une situation qui te semble injuste, là, vraiment injuste, puis insultante en plus, là, ben, c'est normal de vivre la colère. OK? Ça, c'est pas péché en soi, là. On peut dire, parce que David le dit, « Je suis en colère, Seigneur, je me sens pas respecté. » Ça, c'est une chose. Ça, c'est correct. De vivre tes émotions avec le Seigneur. Dieu nous a appelés à être en intimité. Hein? Paul nous dit ça dans 1 Corinthiens. Dieu le Père vous a appelés à être dans la communion avec son Fils Jésus. Wow! L'appel que tu as sur ta vie, c'est de rester en communion avec Jésus. Fait que te dire, ben, je suis en colère, c'est correct. Mais là, souvent Dieu est oublié. Dieu n'est pas dans la situation, du tout dans notre tête. Il ne fait même pas partie de l'équation. On a vu la dernière fois, il y a 2 semaines, comment Saül avait fait l'erreur de confondre son royaume avec celui de Dieu, au point de tuer les prêtres de l'Éternel et chercher à tuer David, loin de l'Éternel qui allait le succéder. Pourtant, c'est l'Éternel qui l'avait choisi. Et tout comme lui, nous confondons souvent, pas vrai, notre petit royaume avec le royaume de Dieu. On justifie. On se justifie, on se donne raison. N'oublie pas que Jésus a dit, « Faites du royaume de Dieu votre préoccupation première. » Fait que pendant ce temps, la scène change. Et on est apporté vers la maison de Nabal, transporté vers la maison de Nabal, où l'on aperçoit un serviteur en train d'informer sa maîtresse de la situation, du danger imminent qui la guette. Comment il le sut, je ne sais pas. Il a dû avoir vent de ça. Mais le serviteur lui explique la dureté, l'injustice, les paroles insultantes de son mari. Donc, on a le fou, on a le furieux, puis on a la sage. Et c'est toute qu'une sage. Une grosse menace se dresse devant cette femme. Donc, on va reprendre la lecture au verset 14 du chapitre 25. OK? Vous me suivez? Chapitre 25, verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés, et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de murailles tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Juste en passant, voyez-vous comment David est centré sur lui-même ici? C'est pour rien que j'ai fait tout ça. OK, attends un peu là. C'est pour rien que tu as fait tout ça. Tu l'as fait pour qui? Si tu vis pour toi, tu vis pour ton petit royaume, tu vis une vie égocentrique, je comprends. Tu l'as fait pour ça. Mais si tu vis une vie christocentrique, tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Fait qu'il y ait une récompense d'un homme ou de quelqu'un ou non, ça n'a aucune importance. Voyez-vous? OK, je ne juge pas David. Je dis simplement comment nous sommes, nous, les êtres humains. Cette petite remarque-là, c'est pour rien que j'ai fait tout ça, là. Ça révèle que son cœur est centré sur lui-même. OK, on continue. Verset 23. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, ou j'aime bien la version du sommeur, fais comme tout cela, c'était ma faute. » Fais comme tout cela, c'était ma faute. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Nabal veut dire fou, là. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme la balle. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qui soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, encore une fois, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qu'il en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. » Lorsque l'Éternel aura fait du bien, aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. On va examiner ce que Abigaël dit. Premièrement, avant d'aller là, le serviteur lui explique la situation. C'est grave. Il s'en vient 400 hommes pour nous détruire à cause de la méchanceté, de la dureté du cœur de ton mari. Quelle réaction possible aurait-elle pu avoir? Oui, c'est vrai. Réaction de colère. Pourquoi? Parce qu'il l'a encore mis dans le chenoute, lui-là, là. Fait qu'elle s'en va engueuler son mari. C'est à cause de toi qu'on est dans ce problème-là. Elle aurait pu faire ça. Pas vrai? Pas vrai? Est-ce que ça aurait été naturel? Absolument. Quelle autre réaction est-ce qu'elle aurait pu avoir?
La peur.
Oui, et la peur, ça fait quoi? Exactement. Elle aurait pu prendre ses jambes, ses genoux à ses... Comment on dit ça, là? Ses jambes à son cou, puis s'enfuir, là. Qui s'arrange avec ses troubles, la balle. Pas vrai? Elle aurait pu sauver sa peau. Ou, elle aurait aussi pu tomber dans le jugement de David. « Ah oui, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ah ben, ah ouais. Regarde comment ce qu'il agit là. C'est beau, hein? C'est beau un homme de Dieu, hein? Regarde ça. Quelle hypocrisie. Ça n'a pas d'allure. On n'a jamais fait ça, hein? Ah, oh, oui, mais avant ça, on n'a jamais fait ça ici, hein?
Ben
On n'a jamais critiqué, là. On n'a jamais tombé dans les jugements, là, hein? Non. C'est toutes des réactions possibles et il y en a d'autres. Oui, elle aurait pu prendre sur la défense de son mari puis aller affronter David. Tu vas voir ce que maman ours elle peut faire quand sa famille est menacée. Là. Je vais te rasseoir, là, David, toi là, tu vas voir. Elle aurait pu diriger sa colère contre David. Indifférente, ça me surprendrait quand même. Mais bon, elle ne choisit aucune de ses réactions. Déjà là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Abigail est une femme vraiment spéciale. D'abord, elle prépare une quantité de nourriture digne d'une petite armée, parce que c'est ça, c'était une petite armée. Parce qu'elle accepte et reconnaît la justice de la demande de David, qu'ils reçoivent une récompense pour tout le travail que ces hommes ont fait pour les hommes de son mari. Puis elle se met en route pour aller à la rencontre de David. Mais quelle est la disposition de son cœur? La peur? La colère? Le jugement? Non. Aucune de ces choses-là. Qu'est-ce qu'elle fait à la rencontre de David? Elle se prosterne. Qu'est-ce que ça veut dire? Humilité. L'humilité, on a examiné ça ensemble il y a quelques mois. Le mot humble ou humilité veut dire quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire? Ah, j'ai tout prêché ça pour rien. J'ai tout fait ça pour rien. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire s'abaisser volontairement. Humilité. OK? Rappelez-vous l'image, là. Abigail, elle s'abaisse volontairement. C'est exactement ça la définition de humble. S'abaisser volontairement. Jésus-Christ, c'est l'être le plus humble. Dieu est l'être le plus humble à l'univers. Pourquoi? Parce qu'il s'est abaissé jusqu'à notre niveau et ensuite, il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Humilité, c'est pas dire, ah, moi, pas capable de faire grand-chose, je sais pas, là, j'ai pas de dons, pas important, le monde ne s'occupe pas de moi. C'est pas ça, l'humilité. En fait, ça, c'est l'égoïsme. Tu es centré sur toi. L'humilité, c'est de s'abaisser volontairement. OK? Elle s'abaisse volontairement. Elle n'est pas dans la recherche de la gloire personnelle. Bon, ce matin, ça va être un peu une révision de beaucoup de choses qu'on a vues dans le passé. En 2023, au début de l'année, on a fait une série sur « Résoudre les conflits ». Qui se rappelle de ça? OK. Le premier principe, lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, c'est quoi? On a vu dans le cours. C'est rechercher la gloire de Dieu. Comme j'ai dit, souvent, on oublie que Dieu est là, puis encore plus quand on est dans une situation conflictuelle. Là, ce que tu m'as fait, là, ça... Là, Dieu, il n'est pas là, là. Il n'est pas là. Il ne fait pas partie du portrait. Mais la Bible dit, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire dans une situation de conflit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, chercher la gloire de Dieu? OK. Ah, Dieu va se glorifier, il va faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça, là. C'est comment mes paroles et mes actions peuvent glorifier Dieu dans la situation. Oh, j'ai pas pensé à ça, là, parce que je suis trop en contre la personne. Là. Regardez Abigail ici. Elle ne recherche pas sa gloire. Et tout ce qu'elle va dire, là, a rapport avec Dieu. À rapport avec Dieu. On voit ces paroles au verset 26. Regardez, elle fait référence tout de suite à l'Éternel. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Wow! Hey, c'est spécial, là, parce que dans la situation, là, Comme j'ai dit, et comme on fait souvent, on oublie que Dieu est là. Mais elle, elle déclare sa foi. Qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la situation que je suis en train de vivre, là. Puis ce Dieu-là, il est vivant. OK? Peut-être que tu vis un conflit actuellement. Peut-être que dans le conflit, tu as comme oublié que Dieu était là. Est-ce que Dieu est au-dessus de ta situation? Est-ce que tu recherches à glorifier Dieu dans la situation? Oh ben, tu dis, ah, c'est de la merde, ça. Regarde ce que j'ai fait, puis là, il me fait ça, puis... Hein? Trop centré sur toi pour regarder en haut? Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Mais Abigail croit en un Dieu vivant. Elle dit ensuite que Dieu est celui qui protège David de ses ennemis et qui se charge du sort de ses ennemis. C'est un Dieu protecteur. Regardez verset 29. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faceau des vivants. C'est comme un bundle en bon québécois, là. Un bundle, ça c'est le bundle des vivants, les âmes vivantes. Puis étant dire, ton âme, David, fais-toi-en pas, Dieu, là, il l'a mis dans le bundle, dans le faceau, OK? Mais l'âme de tes ennemis, qu'est-ce que Dieu va faire avec? Lancé comme une pierre d'une fronde. Est-ce que c'est une image qui est tirée en l'air de même? Non, elle connaissait David, elle connaissait l'histoire de David et Goliath, que David était expert avec la fronde. Fait qu'elle utilise une image que David connaissait très bien. Elle proclame que Dieu, c'est un Dieu protecteur. N'oublie pas, là, la menace est là, elle pourrait être zigouillée encore, elle n'a aucune sécurité encore, là. OK? Mais elle recherche la gloire de Dieu. Elle dit, Dieu est vivant. Et Dieu, David, Dieu va te protéger, là. C'est un Dieu protecteur. Tu n'as pas à t'inquiéter de Nabal ou qui que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin de t'occuper de tes ennemis. Tu peux avoir confiance en Dieu. Dieu s'en charge. Au verset 28 et 30, elle déclare que l'Éternel va certainement garder sa promesse de faire régner David. L'Éternel fera du bien. Pardon. L'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable, ça veut dire une famille, une dynastie. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël. Bon. Elle est en train de dire, Dieu, là, David, c'est un Dieu qui garde ses promesses. Garde. Dieu, là, il t'a promis ci, il t'a promis ça. Il t'a promis de faire régner, il t'a promis une famille stable, il t'a promis de faire du bien. C'est un Dieu qui garde ses promesses. Elle fait allusion au fait que la nation d'Israël constitue le royaume de Dieu, puisque les guerres qu'il permet à David de livrer sont les guerres de l'Éternel. Donc, elle croit à la royauté et la souveraineté de Dieu. Elle croit à un Dieu vivant, un Dieu protecteur, un Dieu qui garde ses promesses, un Dieu qui est souverain, qui règne. Et ensuite, regardez, elle désire empêcher David de commettre du meurtre et de se venger lui-même. Elle fait preuve de bienveillance envers lui et elle dit que cette bienveillance tire son origine de Dieu. C'est un Dieu bienveillant. Tout son discours est centré sur Dieu. C'est comme ça qu'on glorifie Dieu dans une situation de conflit. Par une attitude humble, par une attitude de bienveillance, par un discours centré sur Dieu. Dieu est glorifié par ses paroles, pas vrai? Et ses actions dans une situation vraiment, vraiment pas commode. En rappelant à David aussi qui est Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rappelle à Dieu, à David, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez ce dessin-là? Qui est Dieu? Tout commence là. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Fait de nous ce que nous sommes. Hein? Donc, en rappelant qui est Dieu, il est en train de rappeler ce que Dieu a promis et fait pour David, est en train de rappeler à David son identité, à lui. Et ça, ça change le comportement après. Est en train de lui rappeler sa propre identité. On voit ici qu'Abigaël connaissait l'histoire de David. Elle sait qu'il soutient les combats de l'Éternel et qu'il est destiné à devenir roi. Elle fait référence à l'avenir, à l'espérance que Dieu donne à David. C'est que ça touche l'espérance. C'est vraiment un résumé de tout ce qu'on a vu dans les deux, trois dernières années ce matin. L'identité, l'humilité, la résolution de conflits, l'espérance, c'est tout là-dedans. Donc, le premier principe lorsqu'on est dans un conflit, si on veut résoudre le conflit, c'est de rechercher la gloire de Dieu, c'est ce qu'Abigaël fait ici. Le deuxième principe, c'est complètement contre nature. C'est complètement contre nature. Jésus dit, avant d'aller essayer d'enlever la paille de l'œil de ton frère, retire d'abord la poutre de ton œil. Hein? Ça, c'est contre nature. Quand on est dans un conflit, je vois ton problème. Je ne vois pas le mien. Puis toi, tu vois mon problème, puis tu ne vois pas le tien. Pas vrai? Et qu'est-ce qu'elle fait, Abigaël? Voilà ce que dit... Voilà ce qu'elle fait. En premier lieu, la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle dit, c'est de ma faute. OK? Bon. Dans la série sur la résolution de conflits, on a vu que c'est très, très rare que la faute, c'est toute d'un côté. Que c'est à 100% d'un côté. Pas vrai? Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que même si tu as juste 1% de responsabilité dans la situation, tu es à 100% responsable de ton 1%. En tant qu'être humain, on dit, « Ah, lui, il y a 98%. Moi, là, la petite poussière, je balaye, là, j'enlève ça sur la table. » Mais non, ça, c'est le cœur égoïste, le cœur égocentrique qui fait ça. Dans la situation actuelle, est-ce qu'Abigaël avait une faute dans la situation? Zéro. C'est rare, là. C'est rare, OK? C'est rare. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais! C'est incroyable! C'est qu'elle est gracieuse. Elle accepte de prendre la faute sur elle. Wow! Elle accepte de prendre la faute sur elle. Supposons qu'il y a eu un malentendu entre toi et ton ami. Et là, tu dis, là non, non, je lui ai très bien expliqué clairement comment ça va marcher, c'est de sa faute à 100% qu'on arrive dans cette situation-là, et là, en plus, il agit comme si je n'avais pas dit ou c'est de ma faute. Supposons que c'est vrai. Supposons que tout ça, c'est vrai, là. OK? C'est rare en passant, mais supposons. Pourquoi ne pas te montrer gracieux envers ton ami et dire, je suis désolé, j'ai vraiment l'impression d'avoir été clair? Mais au cas où ce n'était pas clair, je te demande pardon. Ça, là, c'est de retirer la poutre de ton œil, même si tu n'as pas, ou même si tu ne crois pas en avoir. C'est ça. Ça, c'est d'user de grâce. C'est exactement ce que Abigaël fait ici. Elle n'a vraiment aucune part de responsabilité dans tout cela, mais elle agit et parle avec grâce. Ça, les amis, là, ça vaut la peine d'être remarqué et souligné et adopté comme comportement. Entre nous en premier, là. Entre nous en premier. Et avec tout le monde. Oui, mon frère.
C'est un comportement qu'on voit dans les Écritures. Daniel priait le Seigneur disant, nous avons péché contre toi.
Oui. Oui. Daniel a prié, nous avons péché, alors que lui, probablement qu'il n'avait pas. Mais il prenait la faute sur lui, il s'incluait là-dedans. Et en faisant cela, j'ai réalisé, je ne sais pas si vous avez réalisé plus vite que moi, qu'Abigaël, elle ressemble à Jésus. Elle ressemble à Jésus. Wow! Parce que Paul dit, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et celui qui était innocent de tout péché, le Christ, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il avait zéro responsabilité dans le conflit que nous, on avait avec lui. Et il a tout pris. Il a tout pris. Retirer la poutre de ton œil, c'est ce qu'elle fait, vraiment. Troisième, j'aurais dû vous demander avant, c'est quoi le troisième? C'est toutes des R, hein? Vous vous rappelez? C'est quoi le troisième R? Vous l'avez vu. Reprendre avec douceur. Voyez-vous comment est-ce que nous, on inverse l'ordre, là? Nous, on commence avec ça, là. Regarde ce que tu m'as fait. Bon, t'as encore fait ça. Bon, regarde. T'as dit ça. On commence avec ça. Alors que ça devrait venir beaucoup plus tard. Et avec douceur. Est-ce que Abigail reprend David? Oui, elle le reprend, mais avec douceur. Regardez ses paroles, c'est incroyable. Elle m'éblouit vraiment. Au verset 31. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qui t'a annoncé, qui t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Est en train de dire David, je ne voudrais pas que tu aies des regrets plus tard de t'avoir vengé toi-même et d'avoir versé le sang, d'avoir commis le meurtre. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'elle le reprend? Oui, elle le reprend, mais de la façon la plus douce possible et avec bienveillance. Je ne voudrais pas que tu aies des remords. Wow! Hey, ça m'instruit, là. Je ne savais pas comment. Parce que nous autres, là, on reprend, mais on reprend souvent par irritation. Là, il faudrait que tu comprennes quelque chose, tu sais. Pourquoi? Parce que je suis frustré. Fait que c'est centré sur qui? Encore centré sur moi. Là, il faut que ça arrête, là, parce que là, sinon, là, ça, c'est des menaces. C'est centré sur qui? C'est encore sur moi. Là, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire, c'est parce que je ne voudrais pas que tu te ramasses avec les conséquences d'avoir désobéi à Dieu. Oh, voyez-vous comment c'est différent? Et elle m'instruit. Elle est vraiment une femme sage. Quelle douceur, quel tact. Et finalement, le dernier R. C'est quelqu'un qui s'appelle le dernier R? Oui, ça ressemble à ça, oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on a résolu un conflit que la relation est restaurée. Fait que le dernier R, c'est souvent le plus difficile, c'est de rechercher à restaurer la relation. La vraie réconciliation. En pardonnant, comment on fait pour réconcilier, pour restaurer? En pardonnant, premièrement, en priant pour la personne, en cherchant à vaincre le mal par le bien. Hein? La parole de Dieu nous dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Ça c'est actif, les amis. C'est pas, je m'assieds sur mon divan jusqu'à temps que l'autre... Non, c'est, soyez vainqueurs du mal par le bien. Malheureusement, c'est ça, ma sœur. Puis je ne suis pas arrivé, moi non plus, là. Mais Abigaël est un modèle pour nous à suivre. Elle fait des quantités de nourriture industrielle pour David et ses hommes. Elle lui apporte, elle lui offre gracieusement. Elle démontre l'amour de façon pratique. Fait que le plus gros obstacle, souvent, c'est mon cœur. Je ne veux pas faire du bien parce que j'ai encore une crotte sur le cœur. Pas vrai? Si tu n'as aucun désir de faire le bien à celui ou celle qui t'a fait mal, ben, tu peux demander au Père de te donner l'amour et la grâce qui animait son fils Jésus. Parce que souvent, on dit, ah, c'est réglé, mais je ne peux plus y voir la face, là. Est-ce que c'est ça que Dieu a fait? Jésus, tu es d'accord avec moi? Tu vas aller mourir pour ces pécheurs-là. Ils ne méritent pas. Ils sont talents, ils sont rebelles. Pourtant, on leur a tout donné. Tu vas régler le problème, là. Tu vas mourir pour leur péché pour qu'il n'y ait pas à l'enfer, puis tu vas revenir me voir après. Puis ça va finir là. On n'aura plus besoin de s'occuper de ce problème-là. C'est froid, hein? Oh! C'est ça que Dieu a fait? Dieu a pardonné tes péchés pour que tu n'ailles pas en enfer, puis ça reste là. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Il a tout fait ça pour être en relation avec nous. Oui. Il a tout fait ça pour être en relation avec nous. Donc, si on n'arrive pas à vouloir au moins faire ça, bien, on ne ressemble pas vraiment à Jésus. On ne ressemble pas vraiment au Fils. Mais c'est impossible, Brian. Je sais que c'est impossible. C'est dur. C'est pas juste dur, c'est impossible. Il faut crier à Dieu. Il faut vraiment crier à Dieu, demander au Saint-Esprit de donner un cœur d'amour, de grâce, de bienveillance. Tu veux ressembler à Jésus? C'est le but de Dieu, hein, qu'on ressemble à Jésus. Ça peut faire mal, ça. Ça, c'est une des situations où ce que vraiment, là, ça peut faire mal. Ça fait mal parce qu'on a un ego, parce qu'on est égocentrique. Mais si notre but le vrai but de notre vie, le but réel de notre vie, c'était de ressembler à Christ, vraiment, là, ça ne serait pas si dur que ça. Restaurer. Dans le cours sur la résolution des conflits, on avait vu, il y avait une phrase, là, il y avait comme un slogan. La relation que j'ai avec toi est plus importante pour moi que le conflit qui nous sépare. Hey! Puis c'est ça que Dieu a dit aussi. Parce que le conflit qui nous séparait avec lui était énorme. Énorme! Puis la faute était à 100% de notre bord. Mais la relation était plus importante pour Dieu que le problème du péché qui nous séparait. Et il a pris les gros moyens, frères et sœurs. Il a vraiment pris les gros moyens pour enlever cet obstacle-là. Comment il l'a fait? Il a tout pris la faute sur lui. Wow! C'est seulement possible si toi, tu as expérimenté ça avec lui. Que lui, il a tout pris tes fautes sur lui, que tu vas pouvoir faire quelque chose qui ressemble à ça envers les autres. Pas vrai? Fait qu'on a vu la mise en scène, on a vu la crise, et maintenant, c'est le dénouement. David est stoppé dans ses traces. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, quand vous étiez jeune, vous écoutiez le Bugs Bunny, puis le... Le Roadrunner, là, le... Roadrunner. Puis des fois, il courait après Le coyote courait après le roadrunner, puis à un moment donné, il frappe un mur. Comme ça, là. David, il frappe un mur, là. Il est stoppé dans ses traces, là. Il était vraiment là, décidé, là. Puis bang! Ping. Il reconnaît que l'attitude et les paroles de cette femme sont inspirées de Dieu, son berger à lui. Wow! Ces paroles viennent directement de Dieu pour lui. Et on voit au final un cœur qui bat pour Dieu. Parce que ça aurait été tellement facile à dire, tasse-toi de là, mêle-toi pas de ce conflit-là, ça te regarde pas, venez-vous-en les gars. Tellement facile. Mais il s'humilie lui à son tour. Ça veut dire quoi, s'humilier? S'abaisser volontairement. David s'abaisse, pourquoi il s'abaisse volontairement? Parce qu'il écoute la voix d'une femme à l'époque. N'oublions pas que les femmes n'avaient aucun statut particulier dans la société. Que ces gars sont là, qu'ils le regardent. Alors David s'humilie. Il s'abaisse volontairement pour se laisser reprendre par cette femme-là. Il a un cœur qui bat pour Dieu. Il reconnaît que cette femme-là, c'est Dieu qui l'a envoyée. Il dit... David, il loue l'Éternel. Regardez verset 32. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui. » Wow! « Béni soit ton bon sens, béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang qui a retenu ma main. » Mais il dit, si l'Éternel n'avait pas intervenu, c'est sûr que ça n'aurait pas fini de même. David loue l'Éternel, il reconnaît la main de Dieu, il loue son berger pour le bon sens de cette femme-là, pour le risque. Écoutez le risque qu'elle a pris, là. C'était au péril de sa vie, là, de faire ça, là. Mais qu'est-ce qui l'animait? Un cœur humble et bienveillant envers David et envers sa famille. As-tu déjà monté à cheval? Il y a plusieurs années, on était à Dolbeau avec la jeunesse pour faire du cheval. Bon, c'était pas la première fois, mais bon. On nous explique comment ça fonctionne, les rênes, tout ça, puis on part. Mais moi, mon cheval, ma monture, là, il se fichait des rênes. Il baissait sa tête pour aller brouter l'herbe. Je tirais sur les rênes. Puis là, si je voulais l'amener quelque part, non, 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 il suivait juste la trace qui revenait à l'écurie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, c'est facile, là, qu'on entend ce matin la parole de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, ce qui va être difficile, là, c'est quand tu vas être dans le feu de l'action. Quand le prochain conflit va arriver, là, tu vas avoir tendance à suivre tes traces comme d'habitude. Puis à ne pas te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Fais pas ça. Dieu dit, hein, dans le psaume 32, il dit, « Ne sois pas comme le mulet ou un cheval sans intelligence. » Il dit, « Moi, je veux t'instruire. Je veux te montrer la voie que tu dois suivre. » C'est ce qu'il a fait ce matin, pas vrai? « Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Fait que tu arrives dans une situation de conflit, tourne-toi vers lui. Il veut t'instruire. Il veut te montrer la voie à suivre. Il veut te montrer comment te comporter, là. Commence pas à suivre tes anciennes traces comme d'habitude. Sois pas comme le mulet, le cheval sans intelligence. On les freine avec un mort ou une bride dont on les orne afin qu'ils ne te busculent pas. À quand remonte la dernière fois que tu t'es laissé reprendre avec humilité? Et si tu as un conflit à résoudre, vas-tu suivre les quatre R qu'on a vus ce matin, la direction que Dieu te donne, ou tu vas choisir de continuer à suivre ton sentier comme tu as toujours fait? Prions. Seigneur notre Dieu, C'est toute une leçon que tu nous as servie ce matin par ta servante Abigail. On reconnaît, Seigneur, ta bonne main sur elle. On reconnaît une vie christocentrique, une vie qui est centrée sur ton royaume à toi, Seigneur. On reconnaît une femme qui règle toutes ses pensées et toutes ses actions selon ta personne et ta vérité. Une femme bienveillante. Seigneur, tu es vraiment grand et magnifique parce qu'elle est un reflet de la personne de Jésus et de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je te confesse que je ne suis pas à la hauteur. J'ai souvent fait à ma tête, j'ai souvent suivi mes sentiers, mais ce matin, prie avec moi, mes frères et sœurs, ce matin, je m'engage à te laisser te glorifier dans ma vie, même dans les situations de conflit. Je m'engage à chercher d'abord à retirer la poutre de mon œil. Je m'engage à reprendre si c'est nécessaire, puis avec douceur. Je m'engage à rechercher la réconciliation tant que ça dépend de moi. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.